Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, dernière émission de cette semaine consacrée aux archives. Les archives, ça sert à écrire l'histoire, ça sert à se souvenir, mais ça sert aussi à inventer nos vies. Et pour en parler de ces vies des gens dans l'enveloppe, j'ai le grand plaisir d'avoir à mon micro ce soir une grande et belle romancière, Isabelle Monin. Bonsoir.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Vous n'avez pas toujours été romancière, vous avez commencé, Isabelle Monin, par être journaliste, on peut le dire.
Ah oui, on peut dire ça. J'étais journaliste pendant 17 ans au Nouvel Observateur. J'étais grand reporter. Mais l'écriture est arrivée, voilà. Enfin, l'écriture était là depuis le début. Alors, je sais pas comment on dit qu'on est toujours journaliste, même quand on n'exerce plus le journalisme, ce qui est mon cas. Je pense aussi que peut-être on est toujours romancier, même avant d'avoir écrit son premier livre, en fait. Il y a une propension, une facilité pour moi, enfin, un rapport avec la langue et les mots qui étaient déjà là depuis...
La langue, toujours. Les mots et aussi la mémoire intime, la mémoire des événements pour reprendre le sous-titre de votre dernier livre dont on va parler.
Oui, la vie des gens en fait.
La vie des gens.
La vie des gens.
C'est ça au fond le point commun, c'est ça la...
Pour moi c'est ça le fil de ces deux activités, entre ces deux activités, le journalisme et le roman. Mais c'est aussi le... J'allais dire l'obsession, ou je sais pas, le truc qui cloche chez moi, c'est que je veux savoir comment les gens vivent et je veux arriver à le raconter. Donc, je me suis dit dans un premier temps que journaliste, ça permettait de faire ça.
C'est-à-dire d'aller voir des gens,
voir de plein les faire de parler. Gens, en voir plein, des différents, dans des situations souvent compliquées pour eux, donc toujours un peu particulières, mais des gens ordinaires la plupart du temps. Moi, j'étais vraiment ce genre de journaliste, c'est-à-dire j'étais pas intéressée ni fascinée forcément par les grandes figures ou les grands personnages de l'époque. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller, si possible, dans des endroits où il n'y avait pas eu de journaliste avant moi. Bon, souvent, quand même, j'arrivais après les autres, mais et de passer du temps et d'essayer de comprendre comment les gens vivaient, et d'essayer de me faire, si ce n'est leur porte-voix, en tout cas, de porter le témoignage de ces vies-là. Qu'on dit ordinaire.
Et de porter, en fait, la voix propre de ceux qui, avec leur propre mémoire sociale, avec leurs arts de faire, mènent leur vie peut-être mieux, Isabelle Monin, qu'ils le croient ou qu'ils le savent.
Alors, je ne sais pas si on peut juger de la manière dont chacun mène sa vie, mais en tout cas, l'idée qu'ils étaient intéressants. Ils sont intéressants, je ne devrais pas parler au passé, je ne suis plus journaliste, mais l'idée, la conviction profonde, en fait, que toute personne a une vie intéressante, même si elle pense que sa vie n'a pas d'intérêt.
Et est-ce que vous pensiez qu'on pouvait trouver cette vie dans les archives, la vie des gens, quand est-ce que ça vous est venu? Quand est-ce que...
Alors, j'avoue que non, justement, moi, je pensais que les archives, c'était un endroit poussiéreux où on ne conservait qu'une pellicule, en fait, de la vie des gens et que, en gros, c'était pas pour moi, c'était un endroit où j'avais l'impression qu'il était pas vivant, justement. Mais il se trouve qu'en 2000, alors je crois que c'était en 2008, c'était au moment du débat sur l'identité nationale lancé par Nicolas Sarkozy, qui était président à l'époque. On s'est dit, avec une de mes camarades du Nouvel Obs, qui s'appelle Doane Buy, on s'est dit, ça serait intéressant d'aller voir comment un certain nombre de Français, qui sont aujourd'hui des figures, des symboles, et des gens importants dans leur domaine, que ça soit des artistes, des hommes politiques, des sportifs, ça serait intéressant de voir comment ces gens-là, comment ils sont devenus français. Et donc, on est allé, on a fait un long travail dans les archives. C'était la première fois pour ma part que j'y allais. On est allé dans les archives, fouiller dans les cartons des archives
des archives nationales.
De naturalisation. Ouais, les dossiers de naturalisation. Et là, effectivement, en ouvrant ces cartons.
Et qu'est-ce que ça fait?
Eh ben, ça fait la vie qui sort des cartons.
Vraiment?
Ah c'est oui, moi, que, ça
parce
m'a
que c'est,
fait
c'est
vraiment...
un cliché, un peu, on se dit...
C'est peut-être un cliché, mais je l'ai ressenti.
Non, mais on le ressent vraiment.
Oui,
c'est comme ça qu'on le ressent.
J'ai beaucoup d'émotions, en fait. Et j'étais très, très étonnée à la fois par la richesse, par la sensibilité qui pouvait sortir de ces archives qui sont purement administratives et policières. Hein, c'est-à-dire un dossier de naturalisation, c'est un dossier qu'une personne a rempli pour devenir, pour demander sa nationalité française et les rapports de police qui sont faits sur elle. Donc, a priori, on pourrait se dire que c'est extrêmement aride et austère, mais là, il y avait à chaque fois des petits détails, des choses qui me faisaient penser, qui me disaient en fait, qui me parlaient de la vie concrète que ces gens-là avaient eue.
Donc ces gens-là, ils n'étaient pas nés français, mais ils s'appelaient Zola, Apollinaire, Gainsbourg, Drucker, Coluche, Aznavour ou Sarkozy d'ailleurs.
Oui.
Et vous en avez fait un livre avec Dohan Buis qui s'appelle « Ils sont devenus français dans le secret des archives ». Bon, je suis
oui,
pas sûr que vous ayez choisi voilà, ce sous-titre. Votre éditeur, c'est Jean-Claude Lattès, oui. D'ailleurs, qui est l'éditeur de votre œuvre.
Oui.
Et au fond, oui, il y avait quand même déjà quelque chose comme un geste, sinon militant, du moins adressé, engagé, que d'aller chercher dans ces dossiers de naturalisation qui sont, au fond,
oui.
Bah, finalement, les archives de notre tiers état aujourd'hui.
Oui, oui, tout à fait. L'idée, c'était non pas de faire un texte militant en disant « nous, l'identité nationale, pour nous, c'est ça ou ça n'est pas ça », mais c'était de raconter des vies. Et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'après ce travail aux archives, donc qui était vraiment l'épluchage, enfin j'imagine que... On a travaillé comme des historiennes débutantes. Ensuite, on est allé autant que possible. On a amené ces dossiers aux descendants ou aux familles concernées, et eux nous ont ouvert leurs archives familiales. Donc, on a pu comme ça augmenter la mémoire administrative par la mémoire familiale, les photos, les histoires, tout ce qui fait les grains d'une vie en fait.
Et là, Isabelle Monin, il y a le premier pont au fond entre une archive disons publique et les archives familiales ou peut-être simplement intimes,
ouais,
la mémoire.
Ouais, la mémoire. Et c'était intéressant aussi de voir qu'il y avait effectivement des ponts entre ces deux types d'archives, mais il y avait aussi des gouffres, c'est-à-dire que quelquefois les familles n'étaient pas au courant de ce qu'il y avait dans les dossiers. J'ai en mémoire l'exemple de la famille Gainsbourg. On a appris à la sœur de Serge Gainsbourg que sa famille avait été dénaturalisée pendant la guerre, puisque, enfin, pour raison de, c'était marqué au crayon de papier sur leur dossier juif. Donc on leur avait donné dans un premier temps la nationalité, mais on l'avait retirée. Et ça, elle l'ignorait. Donc c'était intéressant aussi de voir les trous en fait dans sa mémoire à elle. On pouvait les combler. Un petit peu.
Et vous, votre idée par rapport en tant que romancière, ou en tout cas écrivain à ce moment-là, vous l'êtes déjà d'une certaine manière, parce que vous voulez voir se lever, nous expliquer Isabelle Monin, de se lever des vies et en faire quelque chose. Et non pas effectivement, vous me corrigiez là-dessus, rétablir leur dignité, mais la reconnaître en fait. C'est un geste de reconnaissance.
Oui, oui, et puis c'est raconter. Alors là, en l'occurrence, c'était des personnalités connues, mais c'était raconter des moments inconnus de leur vie, forcément, des moments sombres. Il y a l'histoire de la famille Aznavour qui était dans une dèche pas possible. Bon, il en a parlé lui-même, mais c'était et là où peut-être il y avait déjà une préoccupation d'écrivain. Pour ma part, c'était une fois qu'on avait tout ce matériau, c'était comment on raconte ses vies. Et donc là, il y avait déjà une interrogation forcément sur le mode de narration. Comment on peut raconter? Alors, il n'y avait pas la question de quelle langue on peut leur faire parler, puisque ça n'était pas des personnages, mais des gens réels, etc. Mais il y avait déjà, oui, cette idée de leur donner, alors une stature de personnage, ça serait trop dire, parce qu'ils étaient déjà connus, mais oui, d'en faire des vies qu'on peut raconter.
Quand
à la manière
faille,
un peu héroïque, en fait.
Oui, oui. Quand il y a une faille, quand il y a un manque, une lacune dans la documentation, dans l'archive, est-ce que vous voulez la combler, la colmater par de l'imagination ou simplement de l'écriture, ou est-ce que vous voulez simplement la circonscrire? Qu'est-ce que vous
Alors,
faites
dans le cas ils sont devenus français, moi, j'ai un passé, enfin, j'ai une culture de journaliste, donc quand je traite avec des vrais gens, j'allais dire, j'ai un grand souci quand même d'honnêteté et je me permets pas d'inventer. Il n'empêche que je me souviens le cas de Pérec, où il y avait très peu de choses dans le dossier. Je me suis laissée aller là dans l'écriture à partir sur son livre La Disparition, etc., et à essayer de mettre en scène le peu qu'on avait. Mais sinon, oui, quand il y a une faille, évidemment, c'est très utile d'avoir des outils de romancier.
Bien sûr. Et c'est là, effectivement...
Parce que l'imagination, elle peut permettre de boucher les trous.
Ou l'archive, peut-être elle fait la part entre l'historien d'une part et la romancière, le romancier d'autre part. C'est-à-dire que, voilà, cette pulsion, au fond, de fiction, elle est quand même propre à l'écriture et elle permet de faire de l'archive un tremplin vers l'imaginaire et la création. C'est à ce moment-là, c'est dans ces années-là que vous vous êtes dit... Ce serait bien d'écrire là-dessus, ou sur ce mouvement, ou sur cette mémoire.
Non, parce que j'avais pas du tout pensé encore à ça, mais non, là, je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans les débuts de mon obsession sur raconter la vie des gens et comment je peux la raconter. Après, ce qui m'intéresse sur l'archive et l'imaginaire, c'est qu'on pourrait dire presque que les pièces d'archives, ça serait comme des briques et qu'il faut un ciment, en fait, pour les faire tenir entre elles. Et oui, alors la langue, la manière dont on raconte, mais aussi ce qu'on peut imaginer de ce qui s'est passé entre ces différentes pièces d'archives, c'est intéressant. Mais là, Patrick Boucheron, j'ai presque envie de vous retourner la question. C'est vous, en tant qu'historien, comment vous faites quand vous...
Ben, vous avez compris, enfin vous m'avez compris, oui, Isabelle Monin, c'est-à-dire qu'effectivement je vous poussais là parce que il me semblait qu'il y avait une manière, je veux pas nous séparer, mais enfin en tout cas nous distinguer, il y avait une différence, c'est-à-dire qu'il me semblait que les historiens, enfin en tout cas l'historien que je tente d'être, lorsqu'il tombe sur cette chose-là qui est une lacune, il ne cherche pas à la combler mais à la circonscrire, à en exagérer même peut-être la lacune ou à accentuer l'écart, voilà. Mais en même temps, je dis ça, mais je suis pas très sûr de ce que je dis pour vous, parce que si on parle des gens dans l'enveloppe, justement, qui est le livre que j'ai envie d'évoquer avec vous, vous faites pas ça, vous ne faites pas qu'imaginer, justement. Comment ça s'est passé? Alors, Les gens dans l'enveloppe, c'est un livre qui est paru en 2015, chez Jean-Claude Lattès, avec Alex Baupin, on va expliquer pourquoi. Et il est réédité en livre de poche, comme d'ailleurs votre dernier livre, Mistral perdu ou Les événements.
Ouais.
Tout part d'une enveloppe.
Alors, tout part d'un dîner, en fait, chez un ami historien, en l'occurrence.
Ah voilà, ça je savais pas.
Qui me montre sa collection de photos amateurs qu'il a accumulées depuis des années en achetant sur des sites internet. Alors lui, il achète des photos des États-Unis du début du 20e siècle, la première moitié du 20e. Et il en a plein. Et alors je suis fascinée, stupéfaite, émue, éblouie, enfin je sais pas, plein de mots comme ça, du fait qu'on puisse acheter des photos de famille. Ça me sidère. Et donc le lendemain, c'est un dimanche, voilà, un peu mou, je vais moi-même sur le site internet et je constate que oui, il y a beaucoup beaucoup de photos de famille à vendre.
Des lots en fait.
Il y a des lots, ouais, mais plein. Maintenant, je sais que il y a aussi plein de journaux intimes, il y a plein de correspondances, voilà. Et parmi ces lots, il y en a un qui attire mon œil. Alors, pourquoi celui-là ? J'ai compris plus tard pourquoi, mais sur le moment, je ne sais pas. Il coûte 10 euros, il y a 250 photos, une soixantaine de Polaroid. Je m'interroge 2 secondes pour savoir si c'est raisonnable de cliquer. Oui, évidemment, c'est raisonnable. Donc, je clique et ces photos m'arrivent quelques jours plus tard dans une grosse enveloppe. À l'époque, j'ai aucune idée de ce que je vais en faire. En fait, je les achète parce qu'elles sont à vendre et que... Elles sont à la fois extrêmement familières et en même temps c'est étrange d'avoir des souvenirs de famille, d'une famille qu'on ne connaît pas.
Ce ne sont pas les vôtres. Oui.
C'est quand même... voilà. Donc je garde cette enveloppe pendant un certain temps dans un tiroir chez moi. À chaque fois que j'ouvre le tiroir, elle se rappelle à moi parce qu'il y a une odeur de moisi qui en sort. Donc je les regarde. Ça m'amuse et puis ça m'émeut à chaque fois.
Vous les classez un peu, vous les rêvez.
Ouais, alors il y a énormément de photos ratées, des photos mal cadrées.
C'est toujours touchant d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est toujours touchant, les photos ratées.
Oui, c'est très touchant. des animaux domestiques.
Qu'est-ce qui est raté d'ailleurs dans la photo? Qu'est-ce qui fait qu'on c'est raté? Parce que c'est voilà. flou.
Il y a du flou, il y a des cadrages ratés, il y a des flashs qui ont fait des yeux rouges à des animaux domestiques, énormément.
Oui. Il y a quelques poulets embrochés au premier
voilà.
plan.
Et puis il y a quelques photos quand même qui sont hyper fascinante pour moi. Il y a une vieille dame qui porte toujours des lunettes fumées. Il y a voilà.
Puis une petite fille.
Il y a deux photos où elles sont devant un poulet embroché. Et il y a une petite fille qui revient régulièrement sur les photos. Et cette petite fille, de toute évidence, elle est née dans le même milieu et à la même époque que moi. Donc voilà, elle me parle. Ces photos n'ont pas de légende ou presque pas. Donc j'ai aucun moyen de savoir.
Vous regardez derrière quand même,
ouais,
vous
bien
voyez.
Sûr, bien ouais. sûr, mais il n'y a pas.
Il n'y a même pas de date.
Il y a une date, mais que j'avais même pas vue.
Ouais, c'est
que
ça.
Sur les 250, j'avais pas tout vu. Et il y a une légende d'un endroit qui est nommé un barrage, qui est nommé voilà.
Et bon, mais puis, enfin, il y a quand même, il y a des fringues et tout.
Ah,
donc
mais
on se dit les années 70.
Choses,
quoi,
elles hein disent, ouais, beaucoup de choses. Voilà, et au bout de quelques mois, avoir cette odeur de mon tiroir, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ça, et l'idée m'est venue toute simple, que je devais raconter la vie de ces gens qui étaient dans cette enveloppe, d'où le titre du livre, et que je devais la raconter avec les outils que j'avais à disposition, en fait, c'est-à-dire la romancière qui peut inventer des vies, une langue, etc. C'était mon quatrième roman, donc j'avais déjà publié dans ce domaine-là. Et deuxième manière, la journaliste, on va dire, qui sait faire des enquêtes, qui peut-être serait capable de retrouver ces gens, et qui, si elle les retrouve, serait probablement capable de leur faire raconter leur vie. Et donc voilà, je me suis lancée dans le projet comme ça, aussi simplement que ça. Donc dans un premier temps, j'ai écrit le roman. Donc là, effectivement, ce matériel d'archives a servi de support et de nourriture à mon imaginaire. Et puis ensuite,
vous disposez les comment vous faites
alors
pour écrire ce roman, Isabelle Monin. Vous disposez les.
Bon,
les...
déjà, je dois dire, Patrick Boucheron, que j'ai éliminé les photos très très ratées.
Ok.
Hein, ça m'a délesté de pas mal. Enfin, je les ai gardées évidemment, mais je m'en suis pas servie. Après, il y avait 60 Polaroids, donc ceux-là, je les ai collés sur un mur de mon bureau. Je trouvais ça beau. J'aimais bien justement leur côté maladroit, familier. Enfin voilà. Et puis il y a quelques photos qui m'ont servi vraiment de base pour définir mes personnages. Donc il y avait cette petite fille qui revenait souvent, qui était la seule enfant des photos. Donc j'ai décidé qu'elle serait un personnage important de mon histoire.
Et vous la nommez, ça c'est important.
Et je la prénomme, bien sûr, comme tout personnage. Donc je la prénomme Laurence. Il y avait cette vieille dame aux lunettes fumées dont j'ai parlé, et je décide qu'elle est sa grand-mère, que je prénomme Mamie Poulet, enfin Simone, dite Mamie Poulet, puisqu'elle fait ce poulet à la broche. Et puis je vois qu'elle n'a pas, il n'y a pas de femme qui pourrait être sa mère à cette petite fille sur les photos, jamais. Donc je me dis, la mère est absente, pour quelle raison elle peut être absente? Et là commence le travail du roman, c'est-à-dire j'invente une raison pour laquelle cette mère ne figure pas sur les photos. En l'occurrence, j'invente que cette mère a abandonné sa fille pour aller vivre un amour avec un Argentin.
Il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans ce magnifique roman, et qui me touche comme historien, c'est que au moment où vous... la fiction, elle embraye tout de suite. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce qui est devenu presque un genre littéraire, au fond, qui est de commenter les photos. Vous le commentez après, si j'ose dire. Enfin, ça vient après dans le livre qui comporte aussi le journal, en fait, de sa propre écriture. Mais quand on le lit, les gens dans l'enveloppe, ça commence par les gens dans l'enveloppe, le roman. Enfin, il y a un petit mode d'emploi avant, mais c'est le roman, et c'est parti. On raconte la vie de Laurence, etc. Après, on comprend, en lisant votre journal d'écriture, qui, d'une certaine manière, s'arrête au moment où vous écrivez le roman, et qui aussi comporte ce qu'on aurait fait, c'est-à-dire une sorte de description un petit peu plate
des photos,
que cette famille, vous la voyez à trois générations, et en fait, vous apprendrez qu'il y en a quatre.
Ouais.
Et c'est ça aussi l'histoire, c'est qu'on on l'étrécit toujours. Elle est toujours plus longue qu'on le pense.
Ouais.
Ou on la rajeunit. Ça, je sais pas comment dire, mais ça, c'est très frappant.
C'est très frappant parce que, en fait, ces photos, je les ai quand même regardées un certain nombre de fois. Mais il y a des choses que j'avais pas vues.
Avant l'enquête.
Avant l'enquête.
Et qu'est-ce que vous aviez pas
vu? Eh ben, j'avais pas vu qu'il y avait quatre générations. Exemple. J'avais pas vu qu'il y avait un homme aveugle dans la famille. Ouais. Je l'avais pas vu. Voilà. Alors qu'il est sur plein de photos, et une fois qu'on sait qu'il est aveugle, évidemment, on peut pas voir autre chose qu'un homme aveugle. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire que moi, j'avais pas assez regardé? Sans doute. J'ai pas vraiment de réponse là-dessus. C'est un peu le mystère. Ou est-ce que ça veut dire qu'une fois que j'étais partie dans mon histoire inventée, bon, bah, j'ai suivi. Une fois que j'ai commencé à écrire le roman, la vérité, c'est que j'ai très peu regardé les photos. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'avais mes personnages dans ma tête.
Il y a un moment où, lorsqu'on écrit, il faut lâcher les amarres.
Ouais.
Et on part. Et donc, on ne regarde plus, en fait.
Ouais, j'avais pas besoin de les regarder. Même ça aurait pu peut-être me déranger.
Donc, Mais ça arrive aussi aux historiens. Même aux historiens de l'art. Il y a un moment où ils doivent
partir. J'imagine que il faut partir. Il faut aussi abandonner l'objet, quoi. Mais j'y suis revenue, évidemment, dans la deuxième partie du travail, puisque j'avais décidé que j'écrirais le roman et que je commencerais l'enquête seulement après l'avoir terminé. Et donc, une fois que j'ai fini mon roman, j'avais fait ma maligne avec mon idée, mais maintenant, il fallait que j'essaye de les retrouver. Donc là, forcément, je les ai observés plus attentivement, mais presque comme une enquêtrice de la police, en fait, à la recherche de détails. Est-ce qu'une plaque d'immatriculation pourrait m'emmener vers ces gens? Ben non. Est-ce que essayer de repérer les endroits.
On retrouve un peu la journaliste.
Oui, voilà, plus dans un côté utilitariste de l'archive, moins sensible que pour le roman.
Bon, on va parler de l'enquête, mais on va en parler après avoir entendu une musique, une chanson qui n'est évidemment pas sans rapport avec ces gens dans l'enveloppe, qui a même un rapport direct. On l'écoute et puis on en parle après, Isabelle Menon.
Avec plaisir.
À Clerval, sur le pavé, y a des filles à marier. Y en a des petites et des grandes. Elles sont toutes à marier et personne ne les demande.
Le brocanteur est à l'heure. Il garde son camion dans la cour, devant la porte du garage. En quelques heures, avec son fils, il vide la maison. Prenez tout, je ne veux rien garder, a dit Serge. Parmi des dizaines d'autres, il emporte une boîte entière de photos sans légende.
Au beau milieu de l'hiver, le fils, le mari, le père déposent son cœur en offrande à Clerval sur le pavé et personne ne le demande.
France Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
En compagnie d'Isabelle Monin qui nous raconte comment on peut inventer les vies des gens dans l'enveloppe avant d'aller les chercher vraiment ou d'enquêter sur elles. Et c'est pourquoi son roman, son livre dont on parle, Les gens dans l'enveloppe, est d'abord un roman, ensuite une enquête. Mais c'est plus que ça parce que c'est aussi le journal qui mène du roman à l'enquête, on va en parler. Et puis c'est cette musique, ce sont ces chansons. Vous nous racontez comment elles arrivent dans le projet.
Avec plaisir. Je suis amie depuis très très longtemps, amie d'enfance avec Alex Baupin, qui est chanteur. Et il est une des rares personnes à qui j'ai raconté mon projet. Parce que quand j'avais cette enveloppe là, avec ces photos, j'avais vraiment l'impression d'être tombée sur un trésor et qu'on allait me le piquer. Donc j'étais un petit peu paranoïaque. Mais bon, à Alex, je lui montre les photos et je lui raconte mon idée, voilà, d'essayer de retrouver ces gens et de les raconter de deux façons différentes. Et lui me propose, il me dit, mais ça serait génial, en fait, d'accompagner ça par un disque. Évidemment, ça serait génial, faisons-le. Et donc, il a composé un disque qui reprend la structure de mon livre, c'est-à-dire que il a composé des chansons originales à partir de mes personnages inventés, qu'il a fait chanter par des comédiennes, puisque ce sont des personnages féminins. Et pour la partie enquête, il m'a dit un jour, si tu retrouves ces gens, puisque moi j'étais à leur recherche, ce qui serait bien, c'est que tu leur demandes quelles sont les chansons qui ont compté pour eux.
Parce qu'il commence en fait son travail de compositeur.
Une fois que j'ai terminé mon roman, donc moi
je ne sais pas encore si vous allez trouver les vrais gens.
Il suit un peu, hein. Ouais, je l'appelle un peu de temps en temps pour lui dire comment ça se passe. Enfin bon, voilà. En l'occurrence, je les retrouve, donc il me dit mais demande-leur quelles sont les chansons qui ont compté pour eux et si elle serait d'accord, puisqu'en l'occurrence c'est une fille et sa mère pour les chanter elles-mêmes. Ce qui fait que dans le disque, il y a à la fois la voix de mes personnages et puis il y a la voix des personnes qui étaient sur ces photos. Et la chanson qu'on vient d'entendre, je trouve que elle dit bien en fait tout ce projet, c'est-à-dire que la voix qu'on entend parler, c'est la voix du père des photos, qui lui ne voulait pas chanter mais qui a accepté de lire. Il lit en fait les toutes dernières lignes de mon roman, donc. Là, on a fiction et réalité qui se marient,
qui se donne la main. En fait.
Ouais, exactement. Et le refrain de la chanson, en fait, vient d'un quatrain, enfin que j'avais trouvé dans les archives du village où avaient été prises les photos. J'avais photographié ce quatrain, je l'avais envoyé à Alex. À Clerval sur les pavés, il y a des filles à marier. Et lui, il en a fait une espèce de ritournelle. Donc je trouve que cette chanson, elle est émouvante pour ça. En fait.
Alors il faut dire aussi qu'avec ces chansons et avec votre livre, Isabelle Monin, vous avez continué l'aventure, vous avez fait un spectacle.
On a fait un spectacle à la Philharmonie de Paris notamment, avec à la fois les chansons, les photos, des enregistrements audio que j'avais fait des gens quand je les ai rencontrés. Et puis ça continue puisque... On est en train de préparer l'adaptation en film des gens dans l'enveloppe. Ouais.
Alors justement, parlons de cette force du nom, puisqu'on vient de l'entendre, à Clerval, donc le nom du village. Vous le cherchez longtemps, vous savez qu'une fois achevé le roman, une fois inventé ses vies, vous avez envie de vérifier au fond si la réalité ne serait pas plus surprenante que la fiction, il s'agit pas de corriger la fiction, hein.
J'ai pas retouché.
Le roman, il est ce qu'il est. Il y a un moment où il y a, sinon une erreur de date, du moins, une date, en fait, que vous auriez pu voir, vous l'avez pas vu.
La seule photo datée, je l'avais pas vue.
Vous l'avez pas vue.
C'est pas grave.
Tant pis, c'est pas grave. Le roman,
même
il
c'est
est là.
Bien, en fait, et parce que c'est bien, ça légitime accuse... le décalage entre la fiction et la réalité.
Voilà, ça accuse l'écart. Mais on est devant des photos. Alors là, il y a une petite enquête amusante. Un seul lieu est nommé, c'est un barrage.
Ouais, le barrage du Châtelot.
On
est en Franche-Comté.
En Franche-Comté, dans le Doubs, bon. Mais ils y allaient, quoi, pour le week-end, enfin, on ne peut pas savoir, ce n'est pas là où ils habitent.
Donc, dans le roman, j'imaginais qu'ils y allaient. Tous les dimanches en promenade.
En fait, c'était pas le cas.
Mais c'était pas le cas.
Parce que c'était un peu plus loin que vous l'avez imaginé.
En fait, probablement, comme ils y allaient pas très souvent, c'est pour ça qu'ils le prenaient en photo quand ils y allaient. Parce que si on fait tous les dimanches la même balade, en fait, j'imagine qu'on va pas faire une photo à chaque fois.
Bon, donc il faut voir le fond des photos. Ça me parle comme médiéviste. Ouais. Hein, ouais. C'est-à-dire que la clé, elle doit être à l'arrière-plan.
Ouais, exactement.
Elle doit être à l'arrière-plan. Il faut trouver un indice. Bon, on parlait avec Carlo Ginzburg en début de semaine de cette histoire indiciaire qu'est la discipline. Faut trouver un indice. Vous le trouvez.
Oui, je le trouve.
Alors, c'est quoi, Isabelle?
Alors, l'indice, c'est un clocher. C'est un clocher qui est à l'arrière-fond d'une des photos où il y a la petite fille, donc celle que j'ai appelée Laurence, qui pose avec celui dont je pensais qu'il était son grand-père. Voilà, ils sont dans le jardin d'une toute petite maison et alors avec l'ordinateur on peut zoomer assez facilement sur les photos. Enfin, j'imagine qu'avant on avait des loupes, hein, voilà. Mmh. Et derrière il y a un clocher et ce clocher il a une forme particulière. On est en Franche-Comté, les clochers sont arrondis, mais il a une autre particularité. C'est que il a une bande blanche en fait sous l'horloge. Il y a la cloche, l'horloge et une bande blanche.
Et alors qu'est-ce que vous allez voir tous les clochers de Franche-Comté?
Et là je me dis bon bah alors ça c'est quand même un indice. Oui voilà. Ben là je fais appel à mon ami Google.
Oui. Hein. Notre ami.
Voilà et je tape clocher Franche-Comté en me disant autant jeter une pièce voilà dans une fontaine. Et en fait il y a un monsieur dont j'ai appris le nom depuis parce que, voilà, qui a répertorié tous les clochers de Franche-Comté et qui les a photographiés surtout. Et donc je me retrouve devant des galeries de photos et la cinquième photo c'est mon clocher.
Le là il y a quelque chose qui est aussi très touchant
de Clerval.
De Clerval, qui est aussi très touchant, c'est que entre les gens dans l'enveloppe et l'historienne ou la romancière, ben il y a aussi l'érudit local, le curieux,
oui,
le collectionneur.
Exactement.
Et au fond, c'est ça qui est très beau aussi dans le métier de journaliste, écrivain, de romancier.
C'est la ressource.
C'est la ressource. Voilà. Il y a des gens qui sont des gens ordinaires, on peut dire, mais qui sont passionnés pour, là en l'occurrence, et tant mieux pour vous, les clochers de Franche-Comté.
Ouais, et puis même, une fois que j'avais trouvé Clerval, j'ai tapé Clerval sur mon ami Google, et je suis tombée sur le site d'un passionné local de l'histoire de Clerval.
Généalogie, histoire locale,
le gars qui connaît tout.
Qui connaît tout le monde, mais il ne connaît pas directement
Alors, il
ne
les connaît
gens.
Pas eux, mais c'est vraiment une porte d'entrée géniale pour moi, d'autant que le projet l'intéresse beaucoup, au début en tout cas. Donc il lui-même se met à la recherche de ces gens, de cette famille. Mais j'ai l'impression, en fait, après je me suis dit ça, que comme dans toutes les familles, il y a la personne qui garde l'histoire, qui va garder les albums photos et tout ça. J'ai l'impression que peut-être dans tous les villages, il y a quelqu'un comme ça qui connaît...
Un informateur, comme dirait
les ethnologues. Un historien local, ou je sais pas, mais celui qui conserve.
Ben là, vous le trouvez.
Et donc, je le trouve, je le contacte, et assez vite, je vais le voir. Et donc, bon, après, je vais pas raconter toute l'enquête, mais assez rapidement, finalement, je rencontre les gens qui étaient sur les photos, ceux qui sont vivants, en tout cas.
Et là, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'on parlait du mouvement inverse, Isabelle Monin. Vous avez d'abord été voir des gens, comme journaliste, puis des archives, comme journaliste, écrivain, puis là, des archives, et puis des gens.
Alors là, c'est un peu vertige, en fait. C'est un peu le vertige. Parce que quand j'allais voir des gens comme journaliste, j'avais une raison d'aller les voir. Ils avaient vécu un événement, ou ils avaient été témoins de quelque chose, ou voilà. Là, j'ai pas d'autre raison que mon propre travail et ma propre.
Et eux-mêmes n'ont pas vraiment de raison de vous répondre ou d'accepter votre projet.
Déjà,
encore faut-il que ça
leur
intéresse.
Explique le projet. Il faut que voilà. Et puis en plus, je les rencontre. Je les cherchais, mais pour autant, je les rencontre par hasard. Donc, j'ai même pas le temps vraiment de me préparer à comment je vais raconter mon truc. Donc je suis très intimidée, je suis très émue, parce qu'il y a aussi cette chose fabuleuse qui est que, pour moi, je rencontre mes personnages. Enfin, il y a un moment où je sais pas très bien, en fait, si ce sont les personnages que j'ai inventés. Michel, la personne qu'on entendait chanter dans la chanson de Clerval, c'est quelqu'un que moi j'avais appelé Serge, mais pour moi, un personnage, il a une existence, et il avait, voilà.
Donc, c'était devenu vos personnages.
Soudain, je suis face à Serge, et en fait, il s'appelle Michel.
Alors, il y a quelque chose de aussi bouleversant dans cette question des noms, noms de lieux et noms des gens. Que vous expliquez très bien dans le journal, en fait. Au départ, ben voilà, Michel, vous l'avez appelé Michel, donc Serge, vous l'aviez appelé Serge, et Laurence. Donc c'est Serge. Et puis à un moment au moment où vous allez en fait, quitter le roman pour l'enquête, vous décidez de les suspendre par des guillemets un peu soupçonneux, en disant, mais je vais l'appeler maintenant Laurence, entre guillemets, puisque c'est comme ça, en fait, je lui ai donné ce nom, mais c'est peut-être pas celui-là, et je vais travailler à faire tomber les guillemets. Mais Laurence,
Il se trouve que Laurence s'appelle Laurence.
Et donc là, il y a une adhérence,
une coïncidence
entre la réalité et la fiction.
Ou quelque chose, oui, voilà, une coïncidence, quelque chose qui, si on y réfléchit, est moins étonnant que ça en a l'air. Elle aime pas tellement que je dise ça, mais Laurence, elle a une tête de Laurence. J'avais hésité, Sandrine, Nathalie, Isabelle, j'ai choisi Laurence et ça lui va bien, la preuve, elle s'appelle Laurence.
Bon, Sandrine, Nathalie ou Isabelle. Mmh. Donc, Isabelle Monin, vous avez dit tout à l'heure que cette petite fille, ça pouvait être vous. Et il y a quelque chose d'assez beau aussi dans votre livre, Les gens dans l'enveloppe, c'est le moment où justement vous parlez de ce projet à Alex Baupin. Et il dit, ce truc, c'est toi. C'est exactement toi. Mm. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette exactitude? En quoi c'est exactement vous? Où est l'exactitude?
Ah, mais ça, si je le savais. Ça m'a surprise, en fait, qu'ils disent ça et que quelqu'un puisse dire que c'était exactement moi, parce que je pense que c'est le travail d'une vie, en fait, de savoir exactement qui on est.
Là, après, il parlait de la démarche, en fait.
Après, voilà, c'est vrai que c'est exactement moi. Je pense à l'endroit où je m'intéresse, comme je le disais tout à l'heure, plutôt aux gens ordinaires. Il y a de l'enquête, il y a de l'imaginaire, il y a... il y a de la sensibilité, il y a de la photo. J'aime beaucoup la photo parce que je trouve que c'est l'art de à la fois de l'éphémère et de l'éternel. Enfin, il y a quelque chose là qui est très profond en fait pour moi. Donc, je pense qu'il voulait dire tout ça dans ce truc. C'est exactement toi, enfin moi.
Mais ça veut dire que vous y mettez aussi de vous.
Ah ben forcément. Évidemment. Après, quand on écrit, moi quand j'écris des romans. Les personnages servent d'espèces de canaux dans lesquels je peux faire passer des messages, enfin, ou des choses que moi j'ai ressenties, des sentiments évidemment que j'ai pu traverser. Donc,
mais là, il y a une question qui me brûle les lèvres, Isabelle Monin, parce qu'à tous ceux qui s'intéressent au rapport entre histoire et littérature, on a un spécimen dans le même livre. Vous avez écrit un roman et une enquête. Alors. Vous êtes dans le roman et pas dans l'enquête, ou vous êtes aussi dans l'enquête, en fait, mais différemment?
Je suis dans l'enquête, évidemment. Je le suis d'autant plus que, au départ, je savais pas comment j'allais écrire cette partie. Et donc, je tenais mon journal d'enquête parce que j'ai pas une très bonne mémoire, donc j'écrivais, voilà ce qui se passait. Et à un moment, j'ai compris que je pouvais pas en fait avoir utilisé entre guillemets ou forcé ces gens à devenir des personnages d'un livre sans moi-même me mouiller en fait, m'y mettre. Donc j'ai décidé de garder la forme du journal pour la deuxième partie. Et j'y suis d'autant plus que une autre des coïncidences du travail, c'est que ces photos dont je savais pas du tout d'où elles venaient. En fait, elles ont été prises à 60 km de là où j'ai grandi. Donc forcément, en faisant l'enquête, j'ai aussi, réarpenté des sentiers de mon enfance, de mon adolescence, du milieu social dont je viens, ce qui est pas très éloigné du leur, en l'occurrence. Donc
vous avez cheminé
j'y suis de plein de manières.
Vous avez cheminé vers vous-même, et c'est ça qui vous a donné l'envie ou le courage d'écrire sur vous-même, sur votre famille.
Oui, sans doute.
Donc là, on parle de j'y viens tardivement, mais c'est vrai qu'on a
mais
eu
habillement.
Du mal, on a eu du mal à sortir des gens dans l'enveloppe, et vous aussi sans doute.
Oui.
Mistral perdu ou les événements paraît en 2017, c'est ça?
2017. En 2017.
En 2017, chez Jean-Claude Lattès, et aujourd'hui réédité en livre de poche.
Exactement.
Et là, ça parle de vous directement, mais ça parle aussi de la mémoire. Ça parle de cette Racontez-nous un peu ce livre.
Oui, là, je voulais essayer d'écrire, et vous avez raison, je pense que les gens dans l'enveloppe m'a décoincée de ce point de vue-là, parce que je parle de moi, sans filtre romanesque, là. Je voulais essayer d'écrire sur ce que font les événements à nos vies, qu'ils soient intimes ou collectifs, en fait, ou historiques. Voilà, donc j'aurais pu faire un roman ou aller chercher quelqu'un d'autre et lui demander à la fois de me raconter sa vie et d'essayer de voir les parallèles entre les événements intimes et l'histoire, mais je me suis dit que bon, je m'avais sous la main et que voilà. Donc c'est vrai que c'est un travail littéraire, pour le coup, très littéraire. C'est très pas littéraire. Un témoignage, mais c'est voilà comment.
Mais très lié aussi à votre travail dans les archives, je trouve, en rapport avec, oui. à l'histoire, aux photos, c'est-à-dire qu'elles sont là, aux chansons,
oui,
bien
oui.
sûr, parce que là, ouais. les archives sonores, c'est ouais. la mise en chanson, ouais. là, Renaud, bien sûr,
bah,
mais
oui,
pas
voilà.
seulement.
Et pour autant, là, je me suis un peu forcée, enfin, c'est pas forcée, mais je m'étais dit d'entrée que justement, je ne voulais pas aller dans les archives familiales. Donc, j'ai très peu regardé les albums photos, ça tombe bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup de toute façon. J'ai juste ouvert quelques lettres que je n'avais pas lues depuis longtemps. Et sur la mémoire de ce qui s'est passé en France ou dans le monde dans les années 80, en gros, je suis pas allée vérifier, par exemple.
Oui,
j'ai voulu faire confiance, enfin, j'ai voulu tester, en fait, qu'est-ce que ma mémoire avait gardé. En passant par son filtre.
Mistral perdu ou les événements, on n'a pas le temps d'en parler autant qu'on le devrait, mais c'est un très beau livre qui, comme vous le savez, a touché beaucoup de gens. C'est-à-dire, voilà, il y a eu un mouvement de plus que de sympathie, enfin d'émotion autour
oui,
de ce livre.
Crois, ouais.
Hein
ouais.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on écrit aussi des livres pour s'y retrouver, pour que nous y retrouvions, parce que c'est un livre sur le nous, en fait.
Bah, c'est un livre qui se demande, oui, comment on peut dire nous, comment on peut dire je. Après, l'émotion, elle est très touchante, mais elle n'est pas forcément prévue ou programmée. Je pense que ce qui a touché les gens dans ce texte, c'est son côté universel, en fait. Et c'est un peu comme les gens dans l'enveloppe, c'est que finalement, on part de choses intimes, mais si on les façonne bien, ça devient... quelque chose d'universel dans lequel
ce nous il est historique mais il est faillé de quelque chose de très intime
de très
personnel
intime. Et puis peut-être aussi il est sorti à un moment qu'on continue de vivre où dire nous est compliqué là
politiquement,
je veux dire politiquement. Oui.
Donc. Bon, bah, ça me donne une idée. La prochaine semaine pour moi de matière à penser, on va la consacrer à ça, la question du nous.
Ah bah super.
Bah ouais, ça serait bien. Merci Isabelle Monin.
Et de rien Patrick Boucheron.
Matière à penser, Isabelle Monin, Claude Niort, Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. La semaine prochaine, bah, je cède mon siège bien volontiers à Antoine Garapon qui, dès lundi, nous parlera d'un monde de pirates. Bonne soirée.